Voilà, bonjour à tous et à toutes, frères et sœurs. Je poursuis mon parcours de l'évangile de Marc. On est toujours dans la semaine sainte. La fois dernière, donc Jésus a annoncé les signes qui précéderont son retour, les signes de la fin des temps, et qui nous invitent à veiller pour reconnaître ces signes et reconnaître quelle époque nous vivons. Et nous sommes ici, eh bien, avant le dernier repas. Les événements qui vont précéder et qui vont être ce dernier repas. J'ai intitulé mon message « La préparation divine de notre salut ». Il y a beaucoup de questions de préparation dans ce texte. Et je vous propose de prendre donc l'évangile de Marc. Je vais reprendre à partir du chapitre 14 et le premier verset. Et je lirai jusqu'au verset 25. Marc 14, chapitre 14, verset 1 jusqu'à 25. Et je vais prier. Seigneur, merci encore pour nous avoir laissé ta parole. Merci parce qu'elle nous montre combien tu nous as aimés, tu es allé jusqu'au bout de ta mission. Et Seigneur, tu nous mets en garde aussi, Seigneur. Et merci de nous aider à être en éveil, Seigneur, face à tout ce que tu nous dis dans ta parole. Merci que ta parole, nous la recevions, elle agisse dans nos vies. Et Seigneur, que nous soyons à ton écoute et que nous reflétions ta lumière au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Je lirai donc Marc 14. La fête de Pâques et les pains sans levain devaient avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment se saisir de Jésus par ruse et le mettre à mort. Car ils disaient, pas en pleine fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Elle brisa le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. « À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. En vérité, je vous le dis, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Ils l'écoutèrent avec joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour des pains sans levain où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque ?» Il envoya 2 de ses disciples et leur dit « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau vous rencontrera, suivez-le. » Et là où il entrera, dites au maître de la maison, le maître dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, aménagée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville, trouvèrent les choses comme il le leur avait dit et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Il leur répondit, « L'un des 12, celui qui met avec moi la main dans le même plat. » Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à cet homme-là par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme ne pas être né. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau dans le royaume de Dieu. » Amen. Ce qui signe la parole de Dieu. Événement troublant, hein. Et là encore, la parole de Dieu, elle nous étonne parce que chaque élément, nous devons le voir comme étant à sa place, chaque élément de ce récit. Je vais les parcourir. Un récit qui nous montre qu'il n'y a jamais d'improvisation chez Dieu. Il a tout préparé. Il a tout préparé pour notre salut. Et il ne peut pas se laisser surprendre par les événements. Un non-croyant pourrait voir dans ces événements quelque chose où Dieu ne pouvait rien faire. C'est tout le contraire. Dieu était au contrôle de tous ces événements. Il ne peut pas se laisser surprendre puisque c'est lui qui est au contrôle de tous ces événements qui vont précéder la mort de son fils. Pour résumer ce texte, j'ai choisi cette phrase « Dieu souverain a tout préparé pour notre salut ». Dieu souverain a tout préparé pour notre salut. Par conséquent, eh bien, puisqu'il a tout préparé, nous pouvons lui apporter notre adoration. Ça sera mon premier point. Il reçoit notre adoration que nous avons préparée pour lui. Deuxième point, puisque Dieu a tout préparé, eh bien, il utilise à son avantage les préparations des adversaires qui veulent nous nuire. Ça sera mon deuxième point. Il utilise à son avantage les préparations des adversaires qui veulent nous nuire. Et troisièmement, puisque Dieu a tout préparé, eh bien, il nous invite à nous préparer au repas qu'il a préparé pour nous. Il nous invite à nous préparer au repas qu'il a préparé pour nous. Donc, premier point, eh bien, nous pouvons lui apporter notre adoration comme l'a fait cette femme. Il reçoit l'adoration que nous avons préparée pour lui. Ça se prépare aussi, je vais y revenir. Il la reçoit. Nous sommes donc dans la Semaine Sainte. Nous sommes deux jours avant la Pâque. La Pâque qui, selon la loi juive, devait inaugurer sept jours de fête. Sept jours qu'on appelait les jours de la fête des pains sans levain. Le levain symbolisant le péché. Sept jours de pains sans levain. Alors ici, il y a vraiment deux textes là, enfin, deux événements qui sont complètement à l'opposé. D'une part, il y a la haine et le mépris des pharisiens qui complotent contre Jésus dans le but de le faire mourir. Et en contraste avec cette haine et ce mépris des pharisiens envers Jésus, nous avons cette femme. Une femme qui va révéler en pleine lumière, contrairement aux pharisiens qui complotent en secret, une femme qui va révéler en pleine lumière son respect, son amour, et plus que cela, son adoration pour le Seigneur Jésus. Dans la maison de Simon le lépreux à Béthanie, nous dit le texte. On ne sait pas beaucoup de choses sur ce Simon. Cette femme, elle n'est pas venue les mains vides. Elle s'est préparée. Avec un vase, elle est venue avec un vase d'albâtre et qui contenait un parfum très cher, inestimable. Ce vase, elle va le briser et elle va répandre le parfum sur la tête de Jésus. Ce qui va lui valoir des reproches de la part de certains autour de Jésus, comme quoi c'est du gaspillage. Pour eux, mais pas pour Jésus. Jésus ne voit pas les choses ainsi. Ce sont les hommes qui vont faire une estimation de ce parfum. Ce sont les hommes, vous avez remarqué, ce sont les hommes, pas la femme. Ce sont les hommes qui font l'estimation à prix d'argent. La femme, elle ne calcule pas. Le parfum est estimé à 300 deniers, c'est énorme. Les hommes ont tout de suite pensé à quoi ? Alors ça pouvait partir d'une bonne intention, ils ont tout de suite pensé aux bonnes œuvres qu'ils auraient pu faire avec cette somme. Donner aux pauvres, par exemple. Alors les bonnes œuvres, oui, elles sont bonnes, elles sont importantes. Pour nous, qui sommes chrétiens, enfants de Dieu, c'est important de faire ces bonnes œuvres. Pas pour mériter quelque chose, mais par reconnaissance. Mais pour Jésus, il y a une œuvre qui est plus importante que toutes les autres, c'est notre adoration. Notre adoration que Jésus qualifie de bonne œuvre pour cette femme. Il la qualifie d'œuvre bonne pour cette femme. D'œuvre bonne à son égard. Cette femme, elle a manifesté son adoration envers Jésus sans compter. Quand on aime, on ne compte pas. Jésus nous dit qu'on racontera dans le monde entier le geste de cette femme quand l'évangile sera prêché. Et pour cause, aujourd'hui encore, c'est dans le texte. Ça nous est parvenu jusqu'à nous, jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est dans l'Évangile. Il est consigné pour toujours. Notre louange, notre adoration envers Dieu, envers Jésus, notre adoration directe, c'est le seul de nos services, de nos œuvres, qui durera pour toujours, pour l'éternité. Notre adoration, celle-là, elle durera pour l'éternité. Vous vous rappelez la prière du Notre Père ? Par quoi commence-t-elle ? Papa, donne-moi, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça commence par l'adoration. Ça nous décentre de nous-mêmes. Oui, les disciples auraient toujours les pauvres avec eux pour leur donner. Mais Jésus leur sera enlevé physiquement. Alors tant qu'il était avec eux, c'est une bonne raison de lui exprimer, les disciples, c'est une bonne raison pour leur exprimer leur adoration. C'est aussi pour nous à un autre niveau, bien sûr. Tant que nous sommes sur cette terre, tant que nos proches sont sur cette terre aussi, c'est aussi un rappel de leur exprimer notre amour. Pas notre adoration, si le signe ne revient qu'à Dieu, mais nos proches, qui sont parfois peut-être vieillissants, c'est aussi un rappel de leur exprimer notre amour, tant qu'ils sont là. Alors aujourd'hui, le Seigneur, nous ne le voyons plus. Les disciples le voyaient, ils vivaient avec eux physiquement. Mais aujourd'hui, nous pouvons encore exprimer notre adoration pour le Seigneur. Nous ne le voyons plus, le Seigneur est ressuscité, il est remonté au ciel, mais il va revenir. Et on peut déjà l'adorer avant son retour. Lorsque nous l'adorons sans le voir, je crois que ça a plus de valeur que lorsque nous le verrons. Et là, oui, nous l'adorerons aussi. Mais quand nous l'adorons déjà présentement sans le voir, c'est une adoration qui est ô combien précieuse pour le Seigneur, parce qu'elle manifeste notre foi. 300 deniers ce parfum. 300 deniers, c'était le salaire de toute une année. Parce qu'un denier étant le salaire d'une journée à l'époque. 300 deniers, le salaire de toute une année que cette femme n'a pas hésité à donner pour le Seigneur. Est-ce que c'est du gaspillage que de donner un an de sa vie au Seigneur? Ça revient à se poser cette question. Pas pour cette femme. Tout acte d'adoration pour le Seigneur, d'autant plus quand il est préparé, il a de la valeur pour Dieu. Chacun, bien sûr, selon ses moyens. Le texte nous dit que cette femme a fait ce qu'elle a pu. D'autres n'ont pas cette somme. Mais ne doutons pas que tout acte d'adoration a sa valeur pour le Seigneur. Oui, certains ont pris une disponibilité d'une année pour faire une école biblique. On a vu la famille Gras récemment à Albi, et leurs enfants, j'ai appris, leur fils va faire une année à l'IBG. D'autres ne pourront donner qu'une petite somme au Seigneur. D'autres ne pourront offrir qu'un petit service. D'autres peut-être ne pourront offrir qu'un seul verre d'eau à un disciple. Chaque acte d'adoration compte pour le Seigneur, selon nos moyens. On a 4 évangiles. Le Seigneur nous a laissé 4 évangiles. Dans cet évangile, Marc ne mentionne pas le nom de cette femme. Alors, on peut l'interpréter comme quoi chacun d'entre nous, nous pouvons nous identifier à cette femme par notre adoration. Ce n'est pas cette femme que nous devons adorer, c'est le Seigneur. Elle l'a adorée et nous sommes invités à faire comme elle. Toutefois, dans l'évangile de Jean, chapitre 12, versets 1 et 2, Jean identifie cette femme à la sœur de Marthe, c'est-à-dire à Marie, Marie de Béthanie. Et elle était probablement la seule à discerner combien la fin du Seigneur était proche. Et Jésus dit qu'elle a d'avance embaumé son corps pour sa sépulture. L'adoration de cette femme, c'est aussi une communion à ses souffrances. C'est aussi une communion à ses souffrances. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul dans Philippiens 3, 10. L'apôtre Paul, il voulait connaître le Seigneur, oui, et dans son adoration, il y incluait justement la communion aux souffrances du Seigneur. Je vous lis Philippiens 3, 10, le but de l'apôtre Paul, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Ça, c'était le but de l'apôtre Paul, de connaître le Seigneur jusque dans ses souffrances. Quand on est enfant de Dieu, on reconnaît en Jésus à la fois celui qui a été rejeté. Il a été rejeté par son peuple, et à la fois celui qui est digne de toute adoration. Il a été rejeté par les uns et il est adoré par les autres. Le vase brisé de cette femme représente un esprit brisé. Et quand on se présente devant le Seigneur avec un esprit brisé, pas besoin d'en rajouter, ça lui suffit. Ça lui suffit. Il reconnaît que nous avons besoin de lui, nous avons besoin de son pardon. Ça suffit à avoir son approbation Cette femme, elle a donné ce qu'elle avait de plus précieux à Dieu. Et pour cause, Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux, il a donné son propre fils. Alors juste après, quel contraste entre cette femme qui a préparé son adoration pour le départ de Jésus avec ce parfum de grand prix et Judas qui, lui, il a préparé sa trahison. Mon deuxième point, il sera très court, c'est que Dieu utilise à son avantage les préparations des adversaires qui veulent nous nuire, donc de ces adversaires qui sont aussi les nôtres, qui croyons, mais Dieu utilise à son avantage les préparations des adversaires qui veulent nous nuire. Cette femme, elle a donné tout ce qu'elle avait. Judas, lui, il ne donne pas, il prend. Il a la pas du gain. C'est lui qui prend l'initiative d'aller voir les pharisiens pour leur livrer Jésus contre de l'argent. Eux qui n'attendaient que ça. Le verset 1 nous dit qu'ils cherchaient un moyen de se saisir de Jésus par ruse pour le faire mourir. Judas, il arrive à point nommé. Judas va leur en donner l'occasion rêvée. Et il va même leur simplifier considérablement la tâche par sa trahison. Pourquoi ? Parce que Judas, en trahissant Jésus, les dégagerait de leur responsabilité d'aller chercher eux-mêmes Jésus. Ça les dégageait en apparence de leur responsabilité. Donc il leur simplifiait beaucoup la tâche. Les pharisiens acceptèrent son offre avec une joie sinistre contre de l'argent. Mais là encore, Dieu reste souverain. Il contrôle les événements comme il a contrôlé la rencontre de Judas avec les pharisiens qui se sont trouvés. Un autre point aussi qui montre que Dieu contrôle la situation, les pharisiens voulaient tuer Jésus après la fête, pas pendant, pour éviter une insurrection. Mais c'est le plan de Dieu qui s'accomplira tout de même, puisque Dieu fera en sorte que Jésus, l'agneau de Dieu, soit sacrifié précisément au moment de la Pâque, alors même où les autres agneaux, sont sacrifiés. Dieu restait souverain au contrôle de tous les événements qui précédaient la mort de son fils. Judas, donc, qui préparait sa trahison. D'autres ont préparé quelque chose. C'étaient les disciples. Pendant que Judas préparait sa trahison, les disciples, eux, voulaient préparer la Pâque avec Jésus. Et le texte nous dit, c'est eux qui vont demander à Jésus, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? C'est eux qui prennent l'initiative de lui demander où la préparer. Mon troisième point, ça sera, Dieu nous invite à nous préparer au repas qu'il a préparé pour nous. Dieu nous invite à nous préparer au repas qu'il a préparé pour nous. Donc les disciples lui demandent où? Eh bien, sur quoi Jésus répond, il va envoyer deux disciples et il va leur donner des instructions précises pour trouver l'endroit. Un homme portant une cruche les rencontrera, nous dit le texte. C'est donc facile à reconnaître parce qu'à l'époque, c'était les femmes qui étaient chargées de cette corvée, de porter les cruches, d'aller chercher de l'eau. On pense à la femme samaritaine. Et donc, ils devront le suivre et lui demander où leur maître mangera la Pâque avec les disciples. Et l'homme, tout facilement, l'homme qui a accepté de mettre à disposition du Seigneur ses biens, il leur montrera une chambre haute. Les disciples donc s'exécutent et ils trouvent exactement tout comme le Seigneur avait préparé, avait annoncé. Il leur montrera une chambre haute. Et le texte nous dit, verset 15, ça sera une chambre aménagée et toute prête. Le Seigneur avait tout préparé. Toute prête, ça veut dire, d'après l'évangile de Jean, eh bien, il y aura une table, il y aura un divan, il y aura un bassin d'eau, il y aura du linge aussi, d'après Jean 13, verset 4 et suivant. Donc Jésus avait préparé cette bonne œuvre d'avance, que les disciples avaient à cœur de préparer. Les disciples avaient à cœur de faire quelque chose pour le Seigneur, en l'occurrence de préparer la Pâque. Jésus leur a facilité la tâche, il avait tout préparé. Alors, ils avaient quand même leur part, les disciples. C'est celle de préparer le repas. Ils n'avaient pas besoin de préparer la salle, tout était prêt. Le Seigneur avait fait sa part, il restait la part des disciples. Alors il y a une application pour nous. Quand nous voulons faire quelque chose pour le Seigneur, d'après l'évangile de Luc 22, verset 8, nous savons les noms de ces deux disciples. Nous savons que les deux disciples ayant demandé à Jésus où préparer la Pâque, étaient Pierre et Jean. Mais Marc n'a pas ici non plus précisé leur nom. Alors on peut aussi s'identifier à ses disciples. Ça fait partie des différences entre les évangiles. Marc n'a pas précisé leur nom. On peut s'identifier à eux. Parce que servir le Seigneur est à la portée de tout chrétien. Si vous avez à cœur de servir le Seigneur, mais peut-être vous ne savez pas par où commencer, mais n'attendez pas. N'attendez pas d'avoir tous les indicateurs au vert pour commencer. N'attendez pas d'avoir un signe pour commencer. Faites le premier pas et le Seigneur vous montrera le suivant. Si vraiment vous voulez, vous avez à cœur de le servir. Parce que vous avez remarqué, c'est après que les disciples se soient manifestés, ont demandé au Seigneur, où veux-tu que nous allions préparer la Pâque? C'est seulement après que le Seigneur leur a donné les instructions pour trouver l'endroit. Ils ont obéi et ils ont trouvé tout comme le Seigneur avait dit. Pourquoi? Parce qu'il avait tout préparé. Des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, vous avez la bonne volonté, vous voulez servir le Seigneur, ou alors vous voulez parler de Jésus à quelqu'un, mais vous ne savez pas trop par où commencer, à quelle personne, et vous hésitez. Est-ce que c'est la bonne personne? Et on avance à tâtons, sans trop savoir si c'est la bonne direction. Mais souvent, ce n'est qu'après avoir fait le premier pas, après avoir obéi, qu'on se rend compte que le Seigneur avait tout préparé d'avance. Il avait tout préparé le prochain pas, pour nous faciliter la tâche. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. Vous voulez partager l'évangile avec quelqu'un, peut-être en donnant une évangile, et puis, oui, parfois il y a des gens qui le refusent, mais parfois il y a des gens qui les prennent, et qui les prennent avec un grand sourire, qui sont tout prêts à discuter avec vous, parce que ces personnes avaient déjà été préparées par le Seigneur. Lorsque nous voulons le servir, lorsque nous préparons des œuvres pour lui, il prépare des œuvres pour nous. Éphésiens 2:10 nous dit: car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est après qu'on se rend compte que Dieu, oui, il avait tout préparé là. Moi, j'avançais à tâtons, mais il avait déjà tout prévu. Voilà donc Jésus et les 12 qui arrivent le soir pour manger le repas pascal dans la chambre, cette chambre, toute préparée. Et là, l'ambiance, elle est lourde. Effectivement, ça sera le dernier repas avant celui au ciel de Jésus avec ses disciples et avec nous. Mais là, l'ambiance, elle est lourde, elle est triste, d'autant plus que Jésus, il va plomber l'ambiance. Hein. Il fait l'annonce que l'un des 12, l'un de ses proches, qui est donc présent au repas, le livrera. Et là encore, alors bien sûr, on sait que c'est Judas, mais pendant le repas, Jésus ne mentionne pas le nom du traître, alors qu'il le sait, Jésus. Imaginez le froid que ça a dû jeter parmi les 12. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les disciples, tour à tour, ils vont interroger Jésus en leur demandant: est-ce moi? Est-ce moi, Seigneur? Et vous avez remarqué, ils ne se demandent pas les uns aux autres: est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Ils ne demandent pas non plus au Seigneur: Seigneur, qui est-ce? Dis-nous. Non. Ils disent: est-ce moi, Seigneur? Un « est-ce moi ?» une question qui laisse entrevoir chez eux un manque d'assurance. En fait, ils doutaient d'eux-mêmes. Ils doutaient d'eux-mêmes. Les disciples connaissaient leur cœur. Tous pouvaient voir en eux-mêmes le potentiel de trahir Jésus. Tous avaient le potentiel. Tous avaient en eux-mêmes le potentiel de faire le mal, même celui de trahir Jésus. Mais ils avaient le choix. C'est Judas qui a ouvert la porte à Satan. Il n'était pas obligé d'être le traître. Même si certes Jésus devait souffrir. Mais Judas n'était pas obligé. Il avait le choix. Et Judas, il est là l'exemple même de la combinaison entre la souveraineté de Dieu qui choisit qui il veut et le libre arbitre de l'homme. Il est l'exemple même de la combinaison entre la souveraineté de Dieu et le libre arbitre de l'homme. Un certain monsieur Sweeteux a dit, la nécessité divine de la passion n'était pas une excuse pour le libre arbitre qui l'a déclenché. Je le redis, la nécessité divine de la passion de Christ, donc, n'était pas une excuse pour le libre arbitre qui l'a déclenché. Autrement dit, la souveraineté de Dieu n'enlève en rien la responsabilité de l'homme. La souveraineté de Dieu n'enlève en rien la responsabilité de l'homme dans ses choix, qu'il soit chrétien ou pas. La trahison est mentionnée par Jésus, pas le nom du traître. Et c'est une mise en garde. C'est une mise en garde pour nous. Qu'on soit responsable ou pas, c'est une mise en garde pour tout chrétien. Parce que tout en étant chrétien, on peut pécher. On peut pécher. Même Judas, qui a côtoyé Jésus physiquement pendant longtemps, il a connu Jésus en chair, il l'a trahi. Il est possible de goûter aux dons célestes, spirituels, et de s'en détourner. Voyez Hébreux 6, versets 4 à 6, si vous voulez la référence. Hébreux 6, versets 4 à 6. Je ne vais pas le lire maintenant. On a le choix. On peut choisir de pécher ou de ne pas pécher. Alors, méfions-nous de nous-mêmes. Un chrétien peut tomber s'il ne prend pas garde. Et récemment, vous avez dû recevoir ce mail, hein, vous avez dû apprendre. Récemment, un responsable d'église et d'une chorale sur Paris a été confondu pour avoir abusé de plusieurs femmes, dont deux mineures. Il a usé de manipulation, il a usé d'abus de pouvoir. Ça, c'est su. Et il était important que les églises le sachent. D'autant plus que cet homme est responsable. Responsable d'église. Alors oui, nous avons tous besoin de prière, les uns les autres. Prions pour vous, priez aussi pour nous. Cet homme, il a demandé pardon. Il a demandé pardon. Mais ça ne dispense pas à la justice de faire son travail. La justice qui va enquêter sur les faits. Le danger n'est pas de ne pas avoir confiance en soi. Le danger, c'est de trop avoir confiance en soi. Comme ça sera le cas pour Pierre. Pierre, un peu plus tard, qui promettra à Jésus par un excès de confiance, d'assurance, que jamais il ne le reniera, versets 29 et 31. C'est une promesse qu'il ne tiendra pas. Il y a deux écueils à éviter. Le premier, c'est de trop douter de soi, ce qui fait qu'on ne fait plus rien pour le Seigneur, on a peur de se tromper. L'autre, c'est de trop avoir confiance en soi. Ce sont deux problèmes qui ont la même origine. Un manque de foi en Jésus. Un manque de foi en Jésus qui a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean chapitre 15, verset 5. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, douter de soi, comme les disciples qui ont demandé au Seigneur « Est-ce moi ? » Est-ce que c'est une qualité ou c'est un défaut de douter de soi ? Voyons-y plutôt une qualité. Parce que nous avons besoin de Jésus, non pas de compter sur nous, mais nous avons besoin de Jésus, d'une part pour ne pas pécher, pour résister au mal, nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes, sur notre propre force. Et aussi nous avons besoin de lui pour faire toute œuvre bonne, avec lui et pour lui. Oui, un chrétien peut pécher. C'est pour cela que nous avons besoin, nous tous, de nous examiner, ce régulièrement et ce personnellement. Nous-mêmes, pas examiner notre voisin, nous-mêmes. S'examiner, c'est une des raisons pour laquelle le Seigneur Jésus a institué la Sainte Cène, que nous prenons régulièrement. Que nous prenons régulièrement, pas seulement à Pâques, nous la prenons régulièrement, certains c'est une fois par semaine, d'autres une fois toutes les trois semaines comme nous, d'autres une fois par mois. Mais en tout cas, ce repas a été institué pour nous invite à nous examiner. Nous tous qui nous sommes repentis de nos péchés, nous tous qui avons reçu le Seigneur Jésus, nous avons besoin de nous examiner régulièrement dans notre marche chrétienne avec le Seigneur. Donc raison d'être de la Sainte Cène, nous examiner, mais pas seulement. La Sainte Cène, c'est aussi un repas de communion, c'est en mangeant ensemble qu'on communie les uns avec les autres, entre frères et sœurs, et bien sûr, je vais y venir, communier avec le Seigneur. Et ce repas de communion, il a ses limites. Parce que la Sainte Cène, elle opère aussi à plus ou moins long terme une séparation pour quiconque qui participe et qui persévère dans un péché dont il ne veut pas se repentir. À plus ou moins long terme, il faudra que ça s'arrête parce que Dieu aime trop son Église pour la laisser persister. Avec le risque de levain, le péché est comparé à du levain. Ce qui aurait dû être un moment de communion, le repas, le partage du repas avec le Seigneur, ça a été à ce moment-là que Judas s'est manifesté comme étant le traître. Il n'a pas fait que manger avec Jésus, mais il a mis la main dans le plat en même temps que Jésus. Un geste d'autant plus intime avec le Seigneur, celui qu'il allait trahir. Et on ne trompe pas le Seigneur. Jésus avait prévu cela, la parole l'avait prévu, psaume 41, verset 9. Je lis psaume 41, verset 9. « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Ça s'applique à Jésus, ce passage. D'après l'évangile de Jean, le traître est sorti, et c'est après que Jésus a institué la Sainte-Cène, une fois que le traître est sorti. Judas 13, 30. « Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. » Il était nuit. Et Jésus dit qu'il aurait mieux valu pour cet homme n'être jamais né. Et on connaît la fin de Judas, il se suicidera. Peu après, il avait sans doute perdu tout espoir de réussite matérielle, il aimait l'argent. Mais surtout, il ne pensait probablement pas que sa trahison amènerait à la mort du Seigneur, à la mort de Jésus. Il a été rongé par le regret. Donc, autre raison de ce repas, c'est d'être en communion les uns avec les autres, avec, et bien sûr avec le Seigneur lui-même. La raison principale pour laquelle Jésus nous a institué la Sainte-Cène et nous y invite, c'est d'abord parce que ce repas, c'est un souvenir. C'est un souvenir. C'est le repas du souvenir qui a commencé au moment de la Pâque, pour nous rappeler que Jésus lui-même, il est notre Pâque. Notre Pâque qui a été immolée pour nous. Ce que dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, 7. « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Christ est notre Pâque. La Pâque inaugurait les 7 jours de la fête appelée « Fête des pains sans levain ». Le levain représentait le péché, représente le péché dans notre vie. Péché que Jésus est venu enlever, complètement. Ici, Marc ne mentionne pas d'agneau pascal. Et pour cause, c'est Jésus lui-même qui est l'agneau de Dieu, qui allait être sacrifié. Jésus, l'agneau qui ôte le péché du monde. Jésus est lui-même le plan de salut préparé par Dieu depuis toujours. Et ce repas inaugure la nouvelle alliance de grâce préparée par Dieu et annoncée dans Jérémie 31, 33, que une partie de ce qu'a lu Morel ce matin, Jérémie 31, verset 33, qui nous décrit cette alliance, cette nouvelle alliance. Jérémie 31, 33, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Voilà la nouvelle alliance. C'est Dieu qui inscrit sa loi dans nos cœurs pour que nous vivions comme son Fils. Le mot « alliance » a aussi le sens de dernière disposition laissée par quelqu'un juste après sa mort. Un testament, c'est un testament. Cette alliance, elle devait être scellée par du sang, selon la loi de Moïse, et elle le sera par le sang de Jésus, lui-même. Alors, en instituant ce repas, Jésus nous invite. Il nous invite à nous nourrir de lui-même pour fortifier notre âme. C'est un repas. On mange pour se fortifier. On mange la nourriture physique pour se fortifier. Nous mangeons la parole de Dieu pour fortifier notre âme, pour être fort face à la tentation. Et ça, c'est notre part de nous en nourrir chaque jour. Dieu a fait tout ce qu'il y avait à faire. Il nous invite, donc Jésus, à nous nourrir de lui-même en rompant le pain qui représente son corps, qui a été rompu pour nous, en distribuant le vin, qui rappelle son sang qu'il a versé pour nous. Il prend ces éléments, il les bénit et il nous les donne comme il se donnera lui-même sur la croix le lendemain. Là, il était en train de préparer sa mort. La Sainte-Cène, c'est un don de grâce que tout chrétien, tout disciple doit s'approprier pour se fortifier comme quand on mange. Alors si nous reconnaissons que nous avons besoin du Seigneur, on a besoin de manger, manger sa parole spirituellement, eh bien là nous n'aurons pas de raison de douter de nous-mêmes. Si nous voulons nous nourrir quotidiennement du Seigneur et si nous reconnaissons que nous sommes entièrement dépendants de lui. Et alors il nous gardera, sa parole nous gardera. Donc la Sainte Cène, c'est un repas où nous sommes invités à nous examiner, un repas de communion, un repas de souvenir. Et c'est aussi, c'est non seulement un mémorial de sa première venue, mais c'est aussi une invitation à l'attendre. C'est un regard tourné vers le futur, puisqu'il va revenir. Il viendra une seconde fois. Et ce n'est que là qu'il reprendra de nouveau ce repas. Cette fois, pas seulement avec les 12, mais avec nous tous, son Église. Ça sera un festin. En annonçant cela, Jésus annonçait aussi sa résurrection, qu'il reprendrait ce repas. Il annonçait aussi sa résurrection à ses disciples. Et il annonçait la communion parfaite à venir dans le royaume de Dieu. Apocalypse 19, verset 9, nous parle d'un festin qui aura lieu, les noces de l'agneau, quand il sera revenu. Apocalypse 19, verset 9, et l'ange me dit, écrit, « Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. » On vient de franchir la nouvelle année avec des jours. On ne les connaît pas, mais le Seigneur les connaît. En tout cas, prenons chaque jour que Dieu nous donne. Si nous voulons le vivre avec le Seigneur, prenons chaque jour comme un repas à savourer avec le Seigneur, chaque jour. Je vais prier. Seigneur, tu es venu, Seigneur, tu as instauré ce repas. Et ce repas, Seigneur, qui nous rappelle, Seigneur, ton sacrifice pour nous sur la croix, que tu t'es donné, Seigneur. Tu as donné tout ce qu'il y avait à donner, tu as donné ta propre vie, qu'y avait-il de plus ? Rien, tu as tout donné, Seigneur, pour nous. Seigneur, que nous le rappelions, que Seigneur, nous chaque jour que tu nous donnes de vivre, donne-nous de le vivre comme un cadeau de ta part, Seigneur. Chaque jour que tu nous donnes de vivre avec ce souffle de vie que tu nous donnes, donne-nous aussi de chercher ces œuvres que tu as préparées d'avance, de vivre pour toi, Seigneur, en ayant vraiment la joie d'être à ton service, et Seigneur aussi en t'offrant, Seigneur, un sacrifice d'adoration. Seigneur, comme tu as agréé le sacrifice de cette femme, Seigneur, veuille agréer le nôtre par nos chants, par nos vies, Seigneur, que tu sois toujours placé en premier dans notre vie. Et que Seigneur, quelles que soient les circonstances, quels que soient les jours qui nous attendent, toi tu les connais. Seigneur, que on regarde à toi et avec confiance, Seigneur, avec confiance que tu prépares ta venue, Seigneur. On ne sait pas quand, ce sera cette année ou après, mais tu reviens. Alors Seigneur, que nous t'attendions et oui, Seigneur, aide-nous à nous examiner lucidement, Seigneur, toujours pour être plus dépendant de toi et pour aussi progresser avec toi, pour laisser derrière, Seigneur, notre péché, ce que tu es venu enlever, et pour, Seigneur, regarder avec toi l'avenir, Seigneur. Merci de ta parole et, Seigneur, de ton amour. Au nom de Jésus. Amen.